que Dieu utilise pour transformer de faibles croyants comme nous, c'est simplement de nous faire ressentir combien il nous aime, combien il nous chérit. Ok, on est bien d'accord qu'il nous chérit. On est bien d'accord qu'il nous aime. Bon, alors, dans un certain sens, ça devrait suffire à nous contenter d'être au Seigneur et encore une fois de le servir. Pour ce message ce matin, j'ai choisi des textes, peut-être étonnants, on va voir, mais en fait, l'amour très concret de la vie d'un couple, par exemple, d'une fiancée par rapport à son fiancé, et vice-versa, etc., on le trouve dans le Cantique des Cantiques. Si j'avais été un poète extraordinaire, j'aurais pas pu faire mieux que le Cantique des Cantiques. Alors, en plus, en français, ça donne rien d'aussi bien que dans la langue d'origine, mais quand même, hommes et femmes selon le cœur de Dieu en Jésus-Christ. Oui, il y a des fois où ça marche mieux. Bon, on verra après. Non, mais le premier, c'est, il y a toujours un petit... Voilà. Alors, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Alors, ce matin, je pourrais dire derrière ton masque, parce que bon... Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Là, je ne dis rien. Suspendu au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Alors, je vous laisse chercher comment on peut retraduire ça dans notre relation avec les bien-aimés, avec l'Église. Mais c'est écrit comme ça, hein. Je ne vais pas changer la parole de Dieu. Tous portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton masque. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Alors, je dis, Joël, tu vas où? On est d'accord que l'Église, nous, sommes fiancés à Jésus-Christ. Et donc, il faut voir, bien entendu, ce texte, enfin, tenter de voir ce texte. Jésus-Christ et son épouse, nous. Pas des choses en dehors de tout ça. Alors, nous découvrons le cœur de Jésus dans ces textes-là. Le cœur de Jésus, donc époux de l'Église, notre époux dans un certain sens, qui nous aime au-delà de tout, qui nous chérit au-delà de tout. Aimer, c'est peut-être, on va dire, générique. Chérir, c'est plus concret. Et même parfois, quand on passe par des moments difficiles, il est là pour nous chérir. L'épouse, l'Église, lui répond en choisissant de lui obéir complètement et en décidant de croire à sa parole. Ce n'est pas écrit comme ça dans le texte, hein. Mais par contre, plus tard, oui. Cantique des Cantiques, 4, versets 6 à 8. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Pareil pour Martine, hein, bien sûr. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Dans Éphésiens 5, versets 26 et 29. Oh, c'est super. Dieu voit son Église sans défaut par le sacrifice de Jésus qui lui-même libère sa gloire dans l'Église en l'aimant, en la chérissant. Et tout cela afin de la sanctifier, améliorer l'Église sans arrêt. Bien sûr que si chaque personne de l'Église s'améliore ou se sanctifie, oui, sanctifiée par Dieu, l'Église va en ressentir tout de suite les bénéfices. Mais l'Église elle-même est l'époux, l'épouse de Jésus, et doit aussi sentir la sanctification au fur et à mesure qu'elle vieillit, qu'elle grandit, qu'elle avance, à tel point que ça se concrétise dans le service et dans l'aide aux plus démunis qui sont autour. Alors voilà, donc le sacrifice de Jésus libère sa gloire dans l'Église en nous chérissant, en nous aimant, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comment est-ce possible ? Et pour la faire paraître sainte et sans défaut. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et il en prend soin comme le Christ le fait pour son Église, pour l'Église. Je le disais au début, la méthode principale utilisée par Dieu pour nous, faibles croyants, pour nous transformer, pour nous sanctifier, c'est de nous faire ressentir combien il nous chérit. C'est de cette manière qu'il enlève les taches et la honte de nos cœurs. Lorsqu'on se sent aimé, lorsqu'on se sent chéri, pardon, nous pouvons être pleins de confiance et d'audace dans notre amour pour Jésus. C'est important, non? Si on ne se sent pas aimé par quelqu'un, on ne va pas avoir confiance, n'est-ce pas? On doit accepter que Jésus nous aime. C'est un premier pas. Un des thèmes principaux de ce cantique des cantiques décrit le cœur de Dieu nous chérissant, par l'intermédiaire donc des deux fiancés, lorsqu'il déclare des vertus émergentes dans nos vies, et même dans nos faiblesses quand nous trébuchons. Il le dit, il veut faire de nous des hommes et des femmes parfaits, et une Église parfaite. Jésus ne définit pas nos vies par des combats, par nos combats. Il ne définit pas non plus par nos services, même si on aura des récompenses dans le ciel. Il voit bien plus que nos échecs. Il nous définit par ce que j'ai appelé la semence de vertu qui se trouve dans nos cœurs. Nous sommes, on a la semence dans nos cœurs, de la vertu, d'appartenir à Dieu. Et c'est lui qui l'a fait fructifier, cette semence. Tout le monde l'a. D'aucuns ont accepté que Dieu fasse fructifier, et d'autres ont refusé. C'est la liberté que Dieu laisse, n'est-ce pas ? Il ne tient donc pas compte de tout ce que sont nos échecs, nos râles, même si on râle pas souvent, mais on râle de temps en temps. Il ne tient pas seulement compte des domaines dans lesquels on triomphe, parce qu'il arrive que nous triomphons, bien entendu. Il voit un esprit bien disposé. Ah, c'est ce que je vous ai dit avant. Voilà. Il voit en nous un esprit bien disposé. Alors, comprendre comment Jésus nous définit nous aide à déterminer ce que nous pensons même de nous-mêmes et ce que nous ressentons nous-mêmes. Il voit la graine dans nos vies, l'avantage qu'il a par rapport à nous, c'est qu'il voit aussi la fin du parcours avec clarté. Il veut la réussite de notre sanctification et de notre fin de parcours. Alors bien sûr, il y a des exemples dans la parole de Dieu pour mettre en exergue ceux qui se sont sentis chéris par Dieu, qui n'étaient pas capables et que Dieu a utilisés. Par exemple, lorsque Israël fut attaqué par les Madianites, Gédéon se tenait caché au pressoir tenaillé par la peur. Si vous allez dans Juges 6, il y a toute l'histoire. Un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Oh, vaillant héros !» Vous connaissez bien ce texte et ce mot. Le Seigneur voyait en Gédéon ce que Gédéon ne pouvait pas voir lui-même. Le Seigneur voyait la graine de foi et de courage dans Gédéon, alors que lui ne l'utilise pas encore. Le Seigneur a défini Gédéon selon ce que serait son futur. Gédéon est devenu un des plus grands chefs militaires d'Israël. Dieu voit en vous ce que vous ne voyez pas vous-même. Alors, je n'ai pas dit que vous serez des grands chefs militaires. Parce que moi, l'armée, je ne sais pas. Mais bon, il faut bien être défendu aussi. Passons à l'apôtre Pierre. Vous connaissez par cœur son histoire, hein. On est souvent dans son histoire dans le Nouveau Testament. Jésus a appelé Pierre le roc, vous le savez, celui, ce qui signifie celui qui ne sera pas ébranlé. Pourtant, vous savez très bien que Pierre a été ébranlé. Dieu voyait Pierre dans l'acception qu'il lui a donnée au départ, à savoir qu'il sera un roc. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'accident. C'est pareil pour nous. Matthieu 16, verset 18. Voilà. Donc Dieu savait très bien que Pierre allait le trahir, et pourtant. Pierre alors vivait dans le compromis, même si son instabilité a été révélée. Le Seigneur a vu la graine de courage. Relisez la vie de Pierre, vous allez voir le courage de cet homme. Ah, quand il a fallu parler devant les gens, c'est le premier qui s'est présenté. Hein. Et même la graine de courage et même la graine de stabilité, alors que c'était un homme bouillant, et même la graine de fidélité de Pierre. Et c'est pour ça qu'il lui a donné ce nom de roc. Dans Galates 2, versets 11 et 13, il est dit « Mais lorsque Pierre, Céphas, vint à Antioche, je lui résistai en face. » Paul a résisté à Pierre. « Parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva, se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. » En sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, c'est ce qu'on peut appeler le droit à l'erreur, qu'il convient d'utiliser comme une leçon. Et Pierre l'a fait. Ils ont été disqualifiés pendant un temps par l'Esprit Saint, en même temps. Mais Dieu leur a redonné vie, si on peut dire, pour qu'ils parlent en particulier aux autorités. Dans Romains 4, verset 20, nous parlerons d'Abraham. Alors, Abraham, c'est plutôt dans l'Ancien Testament, mais nous voyons aussi la manière dont le Seigneur parle de la vie d'Abraham en disant qu'il ne douta point dans sa foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Si on voit la vie d'Abraham avant d'être Abraham, ce n'était pas quelqu'un de très costaud. Ce n'était pas quelqu'un qui allait de l'avant sans calculer la dépense, comme on dit. Mais Dieu l'a transformé. Le cœur d'Abraham était à Dieu parce que Dieu le voulait. Romains 4, 24, c'est encore à cause de nous et à qui cela sera imputé. Et nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le choix par Dieu d'Abraham a ses bénéfices encore dans nos vies aujourd'hui. Dieu témoigne aussi par rapport à David, le petit berger sans grande... voilà, mais qui a trouvé en Dieu, on va dire, l'entrée pour sa vie de sacrifice, j'allais dire, mais aussi... pour sa vie conquérante. verset 22 de Acte 13, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. Et il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Voilà le titre du message de ce matin. Nous sommes des hommes et des femmes, et des enfants, des êtres humains, on va dire, hommes et femmes selon le cœur de Dieu. Et ça fait toute la différence. Hommes et femmes qui accompliront toutes les volontés de Dieu. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël avec ce sauveur, Jésus. Donc voilà, relisez Acte 13, les versets 22, et puis bon, lisez le reste, puis après, il y a le verset 36 au final. J'ai affiché ces versets que l'apôtre Jean répétait souvent dans son écrit de l'Évangile. Alors, il disait qu'il était le disciple que Jésus aimait. Alors, quelque part, avec mon esprit mal tourné, je me suis dit, mais les trois autres, ils semblent les mettre un peu à part. Et en fait, c'est tout le contraire. En affichant clairement, je suis le disciple que Jésus aime, bon, voilà à l'époque, hein. Je veux que ça se voit, et je veux que les apôtres qui sont autour de moi se sentent dans les mêmes conditions. Jean 13, 23, Jean 19, 26, Jean 20, verset 2, etc. Jean était le disciple que Jésus aimait, il a écrit et il l'a vécu de façon concrète, accueillant la maman de Jésus après la résurrection. Alors, Jean était couché à la table près de Jésus, nous dit Jean 13, 23. Et je pense que si on fouille un peu le texte, on va se rendre compte que il se sentait aimé malgré toutes les souffrances. Parce que, pas croire que les 12 apôtres, ils étaient là, tranquillou, comme sur un petit nuage. Hein. Ils ont vécu des souffrances, des séparations, etc. Et Jean se sentait aimé malgré ses souffrances, malgré les affres d'avoir tout laissé, la vie autour, pour servir Jésus. Dans un certain sens, le témoignage que j'ai entendu de Frank Poole, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un missionnaire au Tchad, qui est maintenant responsable d'ailleurs pour l'Afrique de la mission, et il est allemand, et il a été appelé à la mission. Et un jour, Martine et moi, on a eu le privilège d'aller chez eux en Allemagne, et leur église était en perdition. Quand vous avez à côté de vous un homme comme Frank Poole qui disait « Oh, pas de problème, on a toujours des solutions à tout », on se dit « Mais Frank, ton église, elle va pas bien, tu es l'homme de la situation. » Dieu a dit à Frank « Tu vas aller au Tchad, tu vas pas... ton église, elle va trouver une solution pour s'en sortir. » Et Frank avait cette conviction que sa place était là-bas. Et ça a été dur. Karine avait peur des toutes petites bêtes qui hantaient son placard à graines, à Mâcon. Alors que dire au sud du Tchad? C'était vraiment difficile. Ils ont tenu et Dieu a béni. Et Dieu a béni l'Église. Ok. Ils se sont retrouvés avec peu de membres. Et le peu a grossi. Et aujourd'hui, l'église est importante à Leonberg, même si Franck et Karine sont allés dans le nord de l'Allemagne maintenant. Ça me permet un peu de parler aussi de ces hommes et ces femmes consacrés. Pardon. Ils ont tout laissé pour aller là-bas. Alors, on apprécie aussi ou on juge, et on sait que l'ennemi, il n'aime pas trop qu'on succombe à l'amour de Dieu. Bah, il n'aime même pas du tout, hein, faut être clair. Comme un fiancé ou une fiancée succombe à son futur mari ou à sa future femme. Alors le diable, il veut nous décrire comme des hypocrites. Bon, bah, on sait l'être. Pour qui il n'y a plus non plus d'espérance d'ailleurs. Dans un sens, si nous ressentons notre faiblesse à servir Dieu, c'est un premier pas pour changer. Ah, si on se sent tout puissant, quelque part, on n'a pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si on sent notre faiblesse à le servir, c'est un pas pour changer. Alors, il veut que nous ressentons cela pour qu'on abandonne la course, bien évidemment, et c'est arrivé. Qu'on abandonne la course. Heureusement, la plupart du temps, par la grâce de Dieu, on revient et on le sert, et il nous sert. Alors, bien sûr, l'accusation et la condamnation, c'est le plaisir de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, parfois, c'est comme ça, un pervers narcissique tire toute sa force d'un être qu'il juge plus faible que lui, et il va l'oppresser, n'est-ce pas? Et Satan fait la même chose. Heureusement, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour nous aider à résister à cette pression, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on peut dire que il veut aussi nous faire passer pour des incapables à servir, ok. Il veut aussi que on passe beaucoup d'énergie émotionnelle, c'est-à-dire ne pas compter sur lui, mais plutôt sur nous, pour combattre le feu des attaques qu'on a, des gens qui veulent nous rendre insignifiants ou qui veulent nous condamner, etc. Donc c'est un fardeau que l'ennemi met, cette condamnation, ce rejet. Et ça peut nous demander beaucoup d'énergie pour combattre. Alors que si nous lâchons l'affaire, je ne dis pas que c'est facile de lâcher l'affaire, hein, le Saint-Esprit peut mieux pénétrer nos vies et nos cœurs et nous faire le plus grand bien qu'il veut, hein, puisque nous sommes l'époux de Christ. Alors, ne pas être préoccupé par ses échecs, ce n'est pas facile. Ne pas être préoccupé par la honte parfois que nous avons de ne pas être suffisant, c'est pas facile non plus. Adam et Ève, hein, ils ont été les premiers à avoir honte de la situation dans laquelle ils se sont mis. Mais rester dans cette situation-là, dans cette orientation-là, là c'est grave. Et Dieu met tout à notre disposition, en particulier l'Église, les frères et les sœurs, mais bien sûr sa parole et son esprit, pour nous sortir de toutes les ornières dans lesquelles nous pourrions être. On va essayer de faire avancer un peu ça, parce que de temps en temps quand même. Alors il y a pas mal aussi de chrétiens, et j'ai été de ceux-là, je le suis peut-être un peu moins maintenant, qui vivent en mesurant le niveau de maturité qu'ils ont atteint. Est-ce que je suis un meilleur chrétien aujourd'hui qu'hier ou avant-hier? Est-ce que je suis plus mature dans ma vie, etc. Bon, quand on commence à mesurer le niveau de maturité que nous atteignons, on devient vulnérable. Il y a deux problèmes essentiels. Le premier, si nous voyons que nous réussissons, et là je parle d'un état d'esprit mondain, nous pouvons nous sentir orgueilleux. Et donc, quelque part, les autres autour, c'est pas terrible quoi. On va certainement les critiquer, voire les juger. Si nous ressentons que nous sommes dans l'échec, on n'avance plus. Alors là, on se sent coupable et on est tenté d'arrêter le service, de ne pas continuer avec Dieu. Donc, mesurer le niveau de notre maturité, ça ne sert à rien. Il faut simplement dire, « Ok Seigneur, je veux m'améliorer de jour en jour, ça c'est le but. » Et donc là, il est écrit, « Connaître les émotions de Dieu, la beauté, la douceur. » Il y a tout un tas de mots qui définissent parfaitement ce qu'est Dieu dans ses émotions. Et décider dans nos cœurs de l'aimer entièrement, donc obéir et croire à son dessein bienveillant à notre égard, Philippiens 2, 13, devrait être la première de nos préoccupations. Et pour connaître Dieu, d'ailleurs on a chanté ce chant qui explique, te connaître, ô Dieu, te connaître, pour devenir meilleur. Un homme qui chérit sa femme ou ses enfants, ou les deux, les transforme. Je ne dis pas que parfois, les enfants ne vont pas partir à droite à gauche, même si on les chérit. Hein, c'est pas... Ça, on a connu. Dieu nous corrige toujours en nous chérissant, pas en nous battant, pas en nous rendant, comment on va dire, exsangues. Quelque part, la parole de Dieu nous appelle à redevenir des enfants dans le sens de notre conception de la simplicité de vivre avec Dieu. Je dirais que là, peut-être, on est plus dans le fait d'être d'éternels adolescents, dépendants de Dieu, de sa parole. Alors, il ne faut pas s'étonner, parce que chez les ados, vous savez, ils ont tout, ce n'est pas vraiment classé, mais ils ont tout. Il n'y a pas de problème. Nous sommes d'éternels adolescents. Nous, ça commence à être un peu mieux classé, bon, petit à petit. Voilà. Et puis, laissons-nous étonner par la parole de Dieu. Alors souvent, c'est facile à dire. Tâchons d'avancer sans trop écouter ceux qui veulent nous affaiblir. Des fois, on n'a rien vu venir, hein. Mais oh, quand même, quelque part, faisons attention. Dire, est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'elle est bienveillante avec nous, cette personne, ou non. Voilà. Dieu nous a aimés le premier pour qu'à notre tour, nous aimions, alors là, il s'agit de ceux qui sont autour de nous, hein, et que nous nous aimions nous-mêmes, enfants et appartenant à Dieu, bien sûr. Et si nous aimons, alors nous inspirerons confiance et respect. Bien sûr, ça appelle une foi active, le psaume 46, verset 10, dit « Arrêtez, donc quelque part, tout ce que je dis avant, de mesurer la maturité, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu est notre papa, il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a le papa, il y a tout le monde. Galates 4, verset 6, que vous connaissez bien. « Parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son propre fils. » Lequel ? C'est pas nous qui... Enfin, bien sûr que nous, à notre tour, on va dire « Abba Père ». Mais là, dans ce verset-là, il est écrit que c'est le fils qui dit « Abba Père. » Alors, la dernière phrase dit ce qu'elle veut dire. Laissons-nous conduire. Alors, je crois que j'ai mis laissez-moi vous conduire, s'il vous plaît. Alors là, je me mets à la place de Dieu, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà, laissez-moi vous conduire, s'il vous plaît, nous dit le Seigneur ce matin. Et je souhaite qu'effectivement, notre cœur soit mélangé à celui de Dieu. Hommes et femmes selon le cœur de Dieu en Jésus-Christ. Dieu voit en toi ce que tu ne soupçonnes pas, même pour toi-même. Amen.